Bonjour Philippe Cuisset, merci d'être dans les studios de Radio Primitive, de revenir nous voir, puisque tu viens de sortir un nouveau roman. Il y a une jolie fleur non loin de Tirana, alors ça devient une habitude. Tu reviens à chaque fois qu'un nouvel ouvrage paraît, à chaque fois tu me dis que l'ouvrage sera moins sombre que les fois précédentes. À chaque fois j'ai besoin de plusieurs heures pour m'en remettre, mais merci à toi d'être avec nous dans les studios. Donc je l'ai dit, ce n'est pas ton premier roman, est-ce que tu veux bien nous parler un peu de toi et de nous parler déjà des ouvrages précédents avant qu'on parte faire un tour en Albanie?
Bonjour Émilie d'abord, quand je parlais de livres peut-être un peu moins noirs, je parlais peut-être de la couverture.
Non, je pense qu'effectivement une fois qu'on aura listé les thématiques de tes romans précédents, on peut néanmoins voir une petite accalmie au niveau du ciel.
Oui, je vais résumer les trois livres précédents qui ont été publiés chez Kyklos. Donc le premier, c'était Zachary Blondel, Voleur de poules, qui retraçait la relégation d'un bagnard sous la Troisième République et qui mourait à l'île des Pins. Le second évoquait le destin de Miranda, ça c'est un prénom inventé, mais c'était une jeune femme au départ que j'avais rencontrée sur un camp de réfugiés à Reims, qui était d'origine mexicaine, et dont j'avais imaginé le triste destin au Mexique, en étant la victime de trafiquants de chair humaine et de réseaux de prostitution. Et le tout dernier, qui a été publié chez Kyklos, évoquait le génocide encore assez méconnu, bien qu'il ait été reconnu par l'Allemagne assez récemment, et qui évoque le génocide des Herero et des Nama dans le sud-ouest africain allemand entre 1904 et 1908. Et voilà, qui évoquait aussi le sort de ce peuple martyrisé et génocidé avant l'Arménie. Voilà, et donc le dernier se déroule cette fois-ci en Albanie.
Donc nouveau roman, mais également nouvel éditeur, on en parlera aussi. Alors pour ce roman, on suit les aventures d'une jeune femme albanaise. Tu veux bien nous le pitcher, comme on dit à présent ?
Oui, donc c'est mes aventures, ça commence très brutalement, puisque pour échapper à la violence extrême de son époux, elle va en état de légitime défense le tuer, et ensuite être obligée de fuir, de traverser l'Albanie, parce qu'elle va être condamnée à mort par l'entremise d'un texte qui est assez ancien, qu'on appelle le Kanoun, que les Albanais connaissent bien, puisque beaucoup en sont victimes, et qui va la condamner directement à mort. Donc elle doit se cacher et trouver de l'aide en espérant trouver une ligne de fuite et peut-être un exil.
Dans ce livre, il y a des grandes thématiques. Il y a cette envie d'ailleurs, déjà, ouais. qui traverse plusieurs personnages qu'on peut rencontrer dans le livre. Il y a la question des Roms, il y a la question des grandes décharges et de la corruption en Albanie. On parle aussi de la Camorra et tu l'as dit, de ces vendetta, de ces lois coutumières qui peuvent amener des drames au niveau des familles. Comment tu as eu déjà l'idée d'écrire ce roman et pourquoi as-tu fait figurer tous ces éléments-là? Comment en as-tu connaissance? Alors certains, il y a eu des choses qui sont ressorties, même pour nous Français, sans forcément faire de recherche. Je pense que la plupart d'entre nous, on a déjà entendu parler des décharges en Albanie, puisqu'on en est en grande partie responsable. Oui. Mais voilà, comment tout ça s'est construit et comment as-tu eu l'idée d'articuler tous ces éléments ensemble?
Oui, c'était un peu la difficulté de composer le livre, c'était d'imbriquer tous ces thèmes, à la fois la violence exercée sur une jeune épouse, ensuite le trafic illégaux des déchets, l'espoir d'un exil. Donc il y avait plusieurs thématiques qui m'apportaient. Alors, comment j'ai eu l'idée de ça? D'abord parce que depuis plusieurs années, depuis 2016 je dirais, sur les camps de réfugiés à Reims, on a rencontré beaucoup d'Albanais et d'Albanaises, et certains évoquaient d'abord cette fuite pour leur survie liée au Kanun, c'est-à-dire un livre qui a été écrit, je crois, au XVe siècle par Leke Dukagjini, et qui légiférait toute la vie sociale en Albanie, à savoir le travail, la religion, la propriété privée, le mariage, mais aussi un livre qui est consacré à l'honneur et qui, de manière très, très précise, donne le droit de se faire justice soi-même.
Et qui est, tu en parles dans le livre, très dévoyé.
Bon, qui est très dévoyé,
oui. Le texte
dévoyé,
de base, ouais, bien voilà. sûr, même en le contextualisant, est difficilement justifiable. Ouais. Mais en tout cas, la version actuelle...
Oui, aujourd'hui, ce livre-là qui visait en fait à mettre un petit peu d'ordre dans les vengeances personnelles du XVe siècle a été, on va dire, corrompu par la mafia. Et souvent, il y a des intérêts financiers, c'est-à-dire on va s'approprier un terrain. Mais le canon existe toujours. Par exemple, l'une des règles qu'on n'ait pas le droit de tuer une personne tant qu'elle est dans sa maison. Et donc aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a des Albanais qui sont retranchés chez eux, qui ne peuvent pas mettre un pied dehors, sinon ils savent qu'ils seront victimes d'un crime d'honneur et d'un meurtre et de cette vengeance rituelle. Voilà. Ensuite, la question des déchets et des trafics illégaux, j'étais assez sensible puisque on a, nous, les pays riches comme la France, on utilise que ce soit le Sénégal, que ce soit le Kenya pour les Américains, et j'en passe, ou l'Albanie qui est très proche, on utilise ces pays comme des poubelles, donc on envoie des conteneurs entiers de déchets. Et puis il y avait aussi la problématique des Roms, puisque parmi les Albanais que j'ai rencontrés, dont certains sont devenus quelques amis, je pense aux deux musiciens du groupe Les Vagabonds par exemple, enfin l'un d'entre eux en tout cas, sont victimes de discrimination et sont des citoyens de seconde classe, au moins. Voilà.
Ce livre est finalement le résultat de tes conversations avec les Albanais que tu peux côtoyer dans un cercle proche ou plus lointain, et de recherche.
Il y a une part de recherche, puisque quand j'ai travaillé sur la question journalistique par exemple, ou sur les faits divers ou sur les décharges, je me suis évidemment documenté du mieux que j'ai pu, mais il y a aussi une part d'échange avec ces personnes que j'ai pu rencontrer. Et bon, Albanais ou pas Albanais, puisque je les situe en Albanie parce que c'est un pays qui m'intéresse pour plusieurs raisons, mais voilà, ça aurait pu être dans une autre géographie, parce que la question de la violence exercée sur les femmes, c'est quelque chose qu'on a rencontré dans d'autres géographies, dans d'autres pays. Donc ça aurait pu se passer en Syrie, au Ghana, et j'en passe. Voilà. Donc
ton personnage principal est un personnage féminin.
Oui.
C'est souvent le cas. En tout cas, sur tes derniers romans, est-ce que c'est parce que justement ces femmes sont encore plus souvent opprimées? Quelle est la raison première?
Oui, c'est une question que je me pose. Je ne sais pas si j'ai vraiment la réponse, mais c'est vrai que sur les quatre romans qui sont publiés, les trois derniers sont des héroïnes. Oui, peut-être parce que la femme est plus facilement, malheureusement, victime de... Et en même temps, j'ai été... on a été témoin de femmes qui étaient victimes de violences, l'une qui est mise sous protection, d'autres qui étaient menacées par des maris pour des histoires de vengeance. Et donc ça vient aussi de la réalité et de l'expérience que j'ai pu avoir sur les camps, de voir que ces femmes étaient en danger. Et en même temps, pour certaines d'entre elles, j'ai été vraiment frappé par le courage qu'elles avaient de partir avec des enfants. Je me souviens d'une femme qui était arrivée d'Albanie et qui avait passé une nuit juste en face du CADA sur le parc Saint-Jean-Perse. Elle avait ni tente ni couverture. Elle voulait aller nulle part. Elle avait fui justement un mari qui lui en voulait à mort et qui était apparemment sur sa piste. Et on avait réussi à la décider de venir s'installer dans un squat. À l'époque, c'était celui de qui se situait rue de Cernay. Voilà, et donc à la fois une détresse incroyable et en même temps un courage insensé de partir, de tout laisser sans défense, sans protection, avec des enfants parfois. Voilà. Et ça m'a impressionné.
Difficile de trop parler sans abîmer ou dévoiler l'histoire, mais effectivement, les personnages masculins sont parfois lâches. Ouais. Même si on comprend tout à fait, si on se met à leur place, ben voilà, être courageux, ce n'est pas forcément une évidence. Et je pense que l'instinct de survie reste présent. Mais ouais, on a l'impression que tes personnages féminins sont beaucoup plus forts, et pas que dans ce roman-ci d'ailleurs.
Ouais, ouais, ils ont à chaque fois, que ce soit que Miranda, Esther et puis maintenant Zilia, ces personnages-là, je sais pas, une espèce de... peut-être que c'est quelque chose que j'idéalise, c'est possible.
Non, je crois que c'est vrai. Je ne suis pas ça du tout parce que je suis une femme.
J'en sais rien, mais je ne sais pas si on peut faire de différence. Mais en tout cas, me projeter dans un personnage féminin, ça, personnellement, en tant qu'écrivain, ça m'intéresse. Parce que ça m'oblige à être, de comprendre vraiment l'autre. Voilà, parce que des altérités les plus profondes qui soient, ça va être celle de la différence de sexe. Et donc ça m'oblige à essayer de comprendre l'individu. Donc qu'il soit femme, bien sûr, c'est intéressant parce que c'est l'inconnu. Mais c'est ça qui m'intéresse, c'est de me mettre en retrait, de ne pas venir avec mes certitudes ou mes expériences, et de me projeter dans un personnage qui pour moi soit étranger, dans le sens le plus fort du terme.
Parce que c'est vrai que j'ai dit en ouverture, alors c'est presque de la private joke hein, pour les auditeurs, auditrices qui n'auraient pas entendu les interviews auparavant, que c'est très sombre, mais par contre, effectivement, les personnages subissent des choses, subissent les aléas de la vie, subissent des violences systémiques, mais aucune de tes héroïnes n'est juste une victime. Elles sont toutes extrêmement combatives et ça, c'est aussi quelque chose qui revient régulièrement. Ne pas en faire juste des victimes, mais on ne peut même pas parler de résilience parce qu'il y a vraiment cette notion de se battre contre.
Ouais. C'est quelque chose que j'ai pu observer. C'est-à-dire, d'abord, je ne voulais pas écrire quelque chose qui soit dans la victimisation et qui soit larmoyant ou non. Ça, je pense que d'autres peuvent le faire mieux que moi. C'est quelque chose que j'ai pu observer, c'est-à-dire cette force qui était de l'ordre d'une renaissance. Quand Zilia, qui va changer son identité pour des questions de sécurité, et prendre un autre prénom qui est Loulier, qui veut dire la fleur en albanais.
Mais tu vois, je n'osais pas dire les prénoms parce que mon albanais est très défaillant.
Donc elle arrive dans cette décharge à ciel ouvert, qui est un véritable enfer. Et elle se demande si elle va pouvoir tenir. Et elle voit que d'autres vivent là, des Roms qui travaillent depuis des années. Et elle va trouver sa place. Alors ce ne sera pas sa place dernière, puisque évidemment c'est pas un aboutissement. Mais elle va quand même trouver encore la force de vivre, de rencontrer des gens, de pas de s'émerveiller, mais de trouver une humanité dans le dernier endroit dans lequel ça paraît imaginable.
Je t'avais déjà posé la question pour tes romans précédents, mais comment fais-tu pour... on sent vraiment les lieux, on sent la décharge. Moi, j'ai été regarder après coup des articles sur Internet, mais après la lecture et les photos que j'ai découvertes, des exemples de décharge en Albanie avec les cochons, etc. On le ressent très très bien avant. J'en avais jamais vu, j'en avais entendu parler, mais je n'avais jamais visualisé. Et comment réussis-tu à donner corps, en fait, à tout cela? Parce qu'il me semble que tu n'étais jamais allé au Mexique pour ton roman précédent. Là, je ne sais pas si tu es déjà allé en Albanie, mais comment, en tant qu'auteur, tu donnes corps?
Ouais, non, là, c'est plutôt l'Albanie qui est venue à moi, qui est venue à Reims. Mais il y a un travail tout simplement de documentation. Hein, des journalistes ou des documentaristes ou des photographes ont fait des travaux sur les décharges, sur les pays qui nous servent de poubelle. Donc je me suis largement documenté là-dessus. Après, dans la documentation, j'essaie de faire un tri. C'est-à-dire, je peux pas écrire des romans où la part de description, où essayer de restituer la globalité de tout ça. Donc j'essaie de prendre les éléments les plus frappants. Par exemple, un animal malade, des troupeaux de vaches. Voilà, j'ai pris une scène où il y a une vache qui va mourir parce que elle a avalé des sacs plastiques, et ça, c'est quelque chose qui est très courant. Ensuite, la relation aux déchets, c'est quelque chose que je voulais mettre en scène parce que c'est quand même un problème actuellement qu'on doit prendre en considération. Et donc, je ne sais pas comment je fais pour...
Oui, parce qu'au-delà d'une description, tu parles des odeurs, etc. Ouais. Et on a vraiment l'impression, quand on lit le livre, d'être un peu submergé par tout ça. Donc ça va au-delà de dire, bon, alors à tel endroit, il y a telle chose. Et je me demandais comment on réussissait à faire passer ça, quand soi-même on n'a pas été sur les lieux, en fait.
Je sais pas, je pense que c'est peut-être un travail un peu similaire à celui du comédien qui essaie d'incarner un personnage, donc essaie de penser, de sentir comme Zilia. Au bout d'un moment, quelquefois ça marche, voilà, quelquefois ça marche pas. Donc je raye des pages entières, je dis non, elle peut pas faire ça, elle peut pas penser ça. Et puis ce qui me paraît plausible ou sincère, j'essaie de le conserver. Voilà. Je jette beaucoup de pages quand même.
Ça aussi, c'est une question que je t'avais déjà posée, mais à la fin de l'écriture d'un roman comme celui-ci, qui est quand même très sombre, même s'il est combatif et qu'effectivement, il y a des ouvertures, il y a des projections vers l'avenir qui peuvent être plus riantes pour les protagonistes, comment on ressort de tout ça? Parce que là, si on les additionne tous, c'est des histoires lourdes, des situations politiques, géopolitiques compliquées. Comment on arrive à tourner la page et à dire au revoir à nos héros et héroïnes et passer à autre chose?
Je pense que la réalité nous rappelle. Voilà, y a toujours des réfugiés sur les camps, donc j'y suis toujours. Y a toujours des combats à mener contre les méga-bassines, contre le capitalisme. Donc ça évite de rester dans son coin et de gamberger, de s'installer dans... De toute façon, le malheur de Zilia qui condense le malheur de plusieurs femmes que j'ai pu rencontrer ici ou là, c'est pas le mien. C'est pas le mien, donc je sais que moi je suis heureux. Donc, et je regarde autour de moi tout ce qui me rend heureux. La musique, les amis, l'amour, le printemps, même s'il est un peu glacial en ce moment, et glaçant. Mais voilà.
Tu as parlé des vagabonds rapidement, mais certains auditeurs, auditrices ne connaissent peut-être pas les vagabonds, donc peut-être en dire deux mots parce que ça a un réel lien avec cet ouvrage.
Bien sûr, oui, puisque ça fait partie des toutes premières rencontres sur le camp de réfugiés. Donc c'est un orchestre qui s'est fondé à partir de 2017, suite à la rencontre avec deux Albanais, l'un d'entre eux en particulier qui était bon musicien, accordéoniste, et à partir de là, sous l'impulsion d'une amie, on a commencé à répéter, à fonder un répertoire de musique des Balkans, et on a fait jusqu'à ce jour. On a encore plusieurs concerts de prévus prochainement. On tourne pour essayer de glaner un peu d'argent sur qui iront aider toujours ces personnes qui sont dans le froid, qui sont dehors, voilà, et qu'on abandonne lâchement.
Il y a une jolie fleur non loin de Tirana, donc été publiée par Elizade.
Oui.
Donc, nouvel éditeur, on l'a dit en début d'interview. Un mot sur ce nouvel éditeur?
Oui, d'abord, je suis très content de figurer dans ce catalogue où il y a vraiment des écrivains intéressants et remarquables, dans ceux que j'ai lus en tout cas. Et donc, c'est une maison qui a été fondée en 2005 à Tunis, donc qui s'est fondé dans une période de dictature à Tunis. Et donc l'idée, c'était de publier des auteurs qui pouvaient, par l'imaginaire, par le roman, essayer de contourner justement cette censure. Et ensuite, qui s'est ouverte à pas mal de littérature méditerranéenne, moyenne-orientale, africaine, et qui aborde des thèmes intéressants. Je peux en citer, voilà, par exemple, il y a dernièrement un roman de Yamen Manaï qui s'intitule Bel Abîme, qui se passe à Tunis et qui raconte l'histoire d'un adolescent confronté à la réalité actuelle. Il y a aussi le roman, alors ça s'ouvre aussi à d'autres géographies, puisqu'il y a aussi un roman de Anne-Christine Tinel qui s'intitule Malena, c'est ton nom, et qui là évoque l'exil depuis l'Argentine, de la période de la dictature. Voilà, donc il y a aussi d'autres auteurs qui parlent de la Mauritanie, par exemple, de la Palestine. Voilà, donc un catalogue de littérature très engagé, mais pas dans le sens partisan du terme, mais dans le sens où on aborde des problématiques qui sont actuelles et qui sont nécessaires.
Avant de se dire au revoir, Est-ce qu'il est possible de nous donner les rendez-vous? Est-ce qu'il y a des signatures de prévues et puis même peut-être des dates de concert avec les Vagabonds?
Oui, alors il y aura une signature à la librairie la Belle Image. Ce sera le vendredi 12 mai à Reims. Pour les Vagabonds, on doit jouer le 24 mai au Temps des Cerises à 18h30 sous le chapiteau des Temps des Cerises à Croix-Rouge. Et puis on a un autre concert, mais qui n'est pas encore tout à fait décidé. Mais voilà, on devrait jouer aussi sur une péniche. Voilà. On donnera encore une idée de voyage. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci.
Permettez pas moi beaucoup, ni tout flou les peurs tu me l'oses.